Bonjour, je suis donc Michel Golzio, j'ai 67 ans, je pars bientôt à la retraite. J'officie en tant que directeur technique à la grainerie Fabrique des Arts du Cirque à Balma.
Portrait de vie culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Bonjour Michel, comment tu vas?
Oui, ben ça va ce matin, ça va bien. Il fait un peu frais, mais ça va.
Est-ce que tu peux me dire quel pronom tu utilises te concernant?
Ah, par rapport aux gens?
Ouais.
Ah oui, non, c'est vrai.
Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire plus tard ou quel domaine de travail?
Tout petit, je voulais être médecin. Je me rappelle de ça. Et après, c'était ingénieur. Bien sûr, je n'ai pas suivi d'études suffisantes pour arriver jusque ni à l'un ni à l'autre. Mais voilà. Je me suis un peu débrouillé. Alors en fait, moi je suis né en Algérie. Mes parents étaient ce qu'on appelle les pieds noirs, ce qu'on a appelé après les pieds noirs. Donc moi j'en suis parti à 7 ans au moment de la... où mes parents sont partis d'Algérie, au moment de la Révolution. Et puis j'ai fait mes études normales jusqu'après le bac dans le sud-est, donc entre... La Seigne, Brignoles, Toulon. J'ai commencé après le bac dans des études en sciences éco, mais ça n'a pas été bien loin parce qu'en fait, ça ne me plaisait pas trop. Puis j'ai rencontré un copain qui travaillait dans un journal et du coup, j'ai été embauché dans ce journal pour faire le motard. En fait, à l'époque, il y avait des services de messagerie qui étaient en voiture, qui commençaient à être très longs, qui prenaient beaucoup de temps à cause de la circulation, d'où l'idée de faire ça en moto. Surtout dans le sud-est où il fait beau la plupart du temps. Lui, il travaillait déjà dans ce journal, ils avaient besoin d'un deuxième motard. Et on a fait ça pendant un an, puis on a ouvert une société. On a embauché jusqu'à quatre motards, transporter diverses choses, des matières précieuses, des journaux, enfin un peu n'importe quoi. Et puis j'ai eu un accident à un moment donné un peu grave qui m'a éloigné de cette société. Et puisque je croyais être le copain, il en a profité pour me virer. Du coup, bon, moi, je n'ai pas trop insisté, j'étais assez malade. Du coup, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, à volo. J'ai fait quelques boulots, quelques misères, beaucoup de trucs au noir pendant un an ou deux. Je suis parti de la région toulonnaise. Hein. Ma famille, celle de ma mère en tout cas, avait une maison vers Niort et La Rochelle. Du coup, j'y ai passé quelques années. Et là, j'ai rencontré un groupe de gens qui faisaient du théâtre, voilà, en amateur, plus ou moins amateur, dont un garçon avec qui on s'est pris d'amitié. Et on a, comment dirais-je, cohabité ensemble dans un espace de squat qu'il y avait dans une usine désaffectée, où il y avait aussi à côté une compagnie de marionnettes. J'ai sauté sur l'occasion d'une formation de régisseur qu'il y avait à cette époque-là, pendant un an. Parce qu'il y avait dans cette région beaucoup d'associations de théâtre. Dans chaque village avait sa troupe de théâtre. Ils faisaient tous les ans un spectacle estival. Et du coup, il y avait besoin de techniciens. Du coup, ils ont formé cette année-là 8 techniciens très polyvalents, son, lumière, plateau et vidéo et cinéma. Puisqu'il y avait dans la salle de Niort, en tout cas, il y avait projection de cinéma. Dans la salle de théâtre. On descendait un écran, voilà, on faisait une projection. Alors, au début, c'était la projection à l'ancienne avec les vieilles bobines, etc., qu'il fallait coller. Bon, voilà. Puis, moi, je n'ai pas connu le numérique, hein, donc c'était comme ça. En fait, cette activité-là, je l'ai exercée pendant le stage, mais après, pas tant que ça. Ouais, j'ai commencé l'intermittence là. Parce que bon, à Niort, la coursive à l'époque, il y avait pas mal de spectacles, donc ils avaient besoin de serviteurs qui venaient de former, donc ils savaient ce que c'était. Et puis après, j'ai rencontré une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Ville en Bois, avec qui j'ai travaillé pendant 4-5 ans. Et alors après, donc cet ami dont je vous parlais, lui travaillait dans une compagnie de théâtre, alors on va dire de rue, mais c'est pas vraiment de la rue, il faisait des spectacles en extérieur. Beaucoup devant les bâtiments patrimoniaux, hein, des églises, des abbayes, des choses comme ça, avec une dramaturgie très liée à l'an 1000, aux textes médiévaux, etc. Et c'était une équipe qui avait des plasticiens qui faisaient des masques, puis des marionnettes géantes qui étaient manipulées par des gens amateurs qui se trouvaient sur place. Et donc c'était soit en déambulation, soit en fixe. donc devant devant les églises. Et donc ça demandait une technicité un peu particulière à chaque fois. On était en lumière son, moi j'étais tout seul. Bon, en son, c'était la diffusion, il n'y avait pas vraiment, c'était pas très compliqué. En lumière, parfois, ça l'était. Et puis quand il y avait de la déambulation, bon, on avait des systèmes d'éclairage, soit par le feu, soit par. Ouais, il y avait toute une infrastructure à commenter. Mais bon, c'était une équipe de. On était au moins une dizaine, quoi. Même plus parce qu'il y avait 10 comédiens, il y avait 3 techniciens, donc 2 plateaux, voilà, metteurs en scène, oui, c'est plutôt une vingtaine, avec les plasticiens, vient 25, et encadré, ça pouvait être jusqu'à une dizaine en plus de bénévoles plasticiens, plus après, donc, les bénévoles acteurs qui pouvaient être jusqu'à 30 ou 40, voire des fois 50 dans certains coins. Et donc, j'ai tourné avec eux pendant une dizaine d'années. En parallèle, donc, j'ai rencontré mon épouse actuelle, Véronique, qui, elle, habitait Toulouse. Ben, du coup, de La Rochelle, j'ai fait quelques trajets aller-retour en stop à l'époque, en plus avec le chien. Et ça, c'était une période un peu galère, mais c'était très enrichissant. Et ben, du coup, la compagnie, elle, était fixée aussi dans le sud-ouest. Ben, du coup, ça a arrangé un peu les choses. Et de là, donc à Toulouse, ben voilà, j'ai fait quelques boulots en intermittence, j'ai rencontré quelques personnes. Pas tellement en fait, parce que comme j'étais beaucoup occupé par le théâtre de la Ville en Bois et par l'Arche de Noé, je n'avais pas tellement de motifs à faire des recherches de boulot par ici. En plus, on avait une maison qu'on venait d'acheter, donc voilà, il fallait travailler dessus. Ben alors après de là, elle a été embauchée parce qu'elle faisait de l'administration et de la production. Elle a été embauchée donc au Festival de Gavarnie, où j'ai travaillé en tant que technicien une première année. Et puis, voilà, mon savoir-faire et puis ma capacité à travailler, à faire des heures sup et à être investi dans le boulot que je fais. M'ont fait nommer directeur technique à la place de ceux qui partaient l'année d'après. Et ça, j'ai fait ça pendant 10 ans, jusqu'à ce que tout ça s'arrête au bout de 10 ans. Donc j'ai eu une période un peu washi-washa, hein, je sais pas. J'avais pas trop envie de contacter les gens. Je suis resté un peu, j'attendais qu'on m'appelle en fait. Et puis ben, j'ai eu l'opportunité de répondre à une annonce donc justement de la grainerie. Et après un entretien avec Jean-Marc, j'ai été embauché à la grainerie en 2009 et j'y suis toujours. Voilà, jusqu'à la fin de ma période, jusqu'à la fin de ma carrière, on va dire.
T'as connu la grainerie avant que ce soit ici
Alors,
rue
j'ai connu
Saint-Jean.
la grainerie, c'était très galère. En fait, les bureaux, c'était des Algeco. Bon, chauffés, mieux que là, mais c'était chauffé. Mais c'était des Algeco. Il y avait des Algeco toilettes, bon, qui étaient un peu. Voilà. Hein. Il y a une espèce de camion aménagé, bus aménagé, ouais. Pas vraiment un bus, parce qu'il n'y avait pas de. Mais c'était une remorque qui était aménagée en cantine. Alors très rudimentaire, hein, avec des équipements de maison, une gazinière, avec un four, il y avait une table, il y avait un évier, qui gelait l'hiver d'ailleurs, parce qu'à l'époque, comme c'était alimenté par un truc, on n'avait plus d'eau. Voilà, alors on mangeait là. L'été, on sortait la table, on mangeait dehors, et on se prenait les guêpes, et puis l'hiver, voilà, ça allait à peu près. Et il y avait 2 chapiteaux sur le. Alors le terrain était complètement. Il y avait un mur le long de la rue Saint-Jean avec des barbelés au-dessus, puisque c'était un terrain de l'armée, donc c'était encore en condition armée. Et le projet donc de construire le bâtiment était déjà démarré. Ils avaient commencé à démolir le bâtiment, moi quand je suis arrivé, enfin une partie. Et puis il y avait une espèce de maison qui servait de rotonde et de maison du gardien, puisqu'il y avait un gardien en permanence. Il y avait quelques arbres et puis c'était un terrain très en pente avec un quai de déchargement au niveau du bâtiment. Et donc il y avait 2 chapiteaux sur cette place qui était louée par Toulouse Métropole et qui servait à la fois de salle d'entraînement et à la fois de salle de spectacle ou de résidence. Enfin, surtout résidence au début. Et ils cherchaient un technicien justement pour développer un peu cet aspect-là. Du coup, après, on y a fait des manifestations dedans, donc des productions. Jusqu'à un festival, jusqu'à. Voilà. Et petit à petit, ben, alors, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de caisse à outils, il n'y avait pas de clous, il n'y avait rien du tout. Ça venait de l'historique. En fait, la grainerie, c'est parti d'une idée de jongleurs qui se sont réunis à un moment donné pour trouver un lieu de répétition après l'école du judo. Mais voilà, donc ils se sont regroupés, ils ont fondé cette association. Et puis ils ont été de squat en fonction de ce qu'on leur donnait. La ville de Balma, surtout, qui était très intéressée d'avoir justement un groupement de circassiens dans ses murs, parce qu'il n'y avait pas d'activité culturelle. La mairie à l'époque socialiste était plutôt favorable à la culture. Hein. On avait des rapports avec elle qui sont bien loin de celles qu'il y a maintenant. Mais bon, qui avait aussi ses faiblesses et puis surtout qui s'est fait complètement manger par la municipalité, enfin par les citoyens de Balma, qui sont des retraités aisés et qui voyaient d'un mauvais œil ces romanichels s'installer. Et puis surtout, le développement des quartiers où on commençait à faire des habitats partagés. Du coup, la mairie s'est fait virer, mais il n'empêche que ce sont eux qui ont initié le bâtiment et qui l'ont amené à sa fin. Alors, avec plein de défauts, hein, parce que c'était des professionnels et à l'époque, ils n'étaient pas. Ouais, je pense que ça, la grainerie, ça s'est monté parce qu'il y a eu un concours de circonstances, justement, par le fait que, à la fois, la région, le département et la municipalité étaient du même bord et qu'ils arrivaient à s'arranger, ils ont trouvé le financement pour le faire. Après, bon, ça a été fait un peu par-dessus la jambe, quelque part. Mais bon, ça a eu le mérite d'exister. Et puis, ben, finalement, de chapiteau, on est passé à un bâtiment construit, avec ses défauts, bien des défauts, un peu mal conçu aussi, parce qu'en fait, les gens qui l'ont initié, ils voulaient des lieux, mais bon, chacun avait sa petite priorité. Finalement, le mélange, il n'a pas été au top, mais bon, voilà, ça tient encore, c'est amélioré. C'est pris en compte maintenant par Toulouse Métropole, qui est quand même relativement pas mal le bâtiment, malgré ce qu'on peut en penser. Et on s'est tellement développé que maintenant, on est dans une situation un peu comment dirais-je, d'asphyxie financière pour le personnel, pour les activités qui sont utiles. Pour le bâtiment qui a ses limites spatiales, hein, donc voilà, on ne peut pas recueillir tout le monde et Dieu sait s'il y en a qui se sont développés. De par les élèves qui sont formés par le judo, qui est devenu maintenant une école professionnelle qu'on appelle les AXO, et par aussi les étrangers qui viennent surtout d'Espagne ou de l'Amérique latine, mais beaucoup d'Espagne. Qui sont formés à la centrale ou qui viennent se former ici au Lido, et ben, qui font des compagnies, et puis que voilà, ces compagnies, il faut qu'elles travaillent, qu'elles tournent, etc. Du coup, la grainerie, elle se trouve un peu asphyxiée à ce niveau-là.
La grainerie, c'est pas qu'une asso aujourd'hui, c'est maintenant on peut dire que c'est une entreprise et qui est
Ouais.
reconnue quand même à
Oui.
l'international.
Oui, alors maintenant, oui, alors on a ce volet-là, des projets européens qui, effectivement, font rejaillir la reconnaissance de la grainerie au niveau international, avec une maîtrise quand même assez poussée de l'équipe internationale sur les dossiers, notamment, qui sont très compliqués à monter. Hein. Et puis, bon an, mal an, tous les 2, 3 ans, ils sont reçus sur un projet, donc ça prouve leur qualité et la confiance que leur fait l'Europe à ce niveau-là. L'Europe, et on est aussi assez appuyé par la DRAC maintenant, hein, donc la Direction des Affaires culturelles de l'État, qui pousse pour que effectivement l'ensemble des actos graineries deviennent un CNAC, c'est-à-dire un endroit où on forme de façon universitaire les artistes circassiens. Bon, c'est pas encore fait. Ça, c'est en gestation. Il y a un nouveau directeur qui vient d'être nommé à Exacto. Nous, notre directeur est favorable depuis bien longtemps à ce rapprochement, mais il faut. Voilà. Il y a plein de choses qui ont été initiées au départ, hein, mais enfin, au fur et à mesure par rapport à cette demande. Mais finalement, ça aboutit pas. Et surtout au niveau financier, on n'a pas le compte, hein, parce qu'en fait, chaque collectivité se rejette un peu la faute. Oui, nous on donne tant, oui, vous, quand vous voudrez donner autant, ben nous on donnera peut-être un peu plus. Enfin voilà, ça reste un peu. Il n'y a pas de volonté réelle de faire de cette ville, de cette région, surtout de la ville d'ailleurs, parce que la région a déjà pas mal de centres nationaux de l'art du cirque, hein, mais de faire vraiment un lieu de formation reconnu internationalement. Même si par exemple, pour les actos, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de l'étranger et que chez nous aussi. Mais pour l'instant, ça bloque un peu dans les rouages financiers. à une époque, c'est vrai, où on assiste quand même à un désintérêt ou en tout cas à un assèchement financier des entreprises culturelles, qu'elles soient grandes, petites, moyennes. Voilà. Les mairies donnent moins d'argent, les compagnies ben, tirent la langue, elles sont obligées de se restructurer parce que quand c'est plusieurs, ben, ça coûte plus cher que quand c'est tout seul. Donc ils font beaucoup de projets solo. Et à faire des projets solo, ben, ça multiplie la demande et voilà, ça mord un peu la queue. Sachant que ici à Toulouse, en tout cas, on forme une douzaine d'artistes tous les ans. On formait, parce que maintenant ça va être tous les 2 ans. Mais effectivement, ça fait beaucoup de projets qui partent sur le marché, quoi.
Avec toutes ces galères financières et les difficultés à communiquer avec les différentes collectivités, est-ce que c'est compliqué de travailler dans le domaine culturel? Est-ce qu'on peut en vivre?
Ah, on peut en vivre, oui. Dans le domaine culturel, c'est comme partout, il y a plusieurs niveaux, hein. On va dire que nous, au niveau financier, les associations comme la nôtre, nous, on est au niveau plancher, hein, on va dire, hein, voilà, on n'a pas trop de moyens et pour travailler et financièrement en salaire. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Après, il y a le niveau donc des centres culturels, comment dirais-je, de collectivités, de mairies, etc. Hein, donc, les centres dramatiques, théâtre, opéra, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique. Donc là, il y a des niveaux de salaire qui sont un peu plus conséquents. Après, il y a donc tout ce qui est le domaine d'événementiel, du prestataire. Alors là, les niveaux de salaire sont très intéressants. Les horaires peuvent être un peu compliqués, mais on peut y gagner sa vie, hein, surtout en tant qu'intermittent ou patron de boîte. Alors dans ce domaine-là, justement, ça marche tellement bien pour certains que des gros groupes rachètent au fur et à mesure toutes les petites structures qu'il y a autour, ce qui fait qu'on arrive un peu, à mon avis, on va se retrouver assez rapidement à une asphyxie parce que ben parce qu'ils font les prix qu'ils veulent, que ça devient cher et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc je pense que ça redescendra à un moment donné, mais on peut y travailler. Comment dirais-je maintenant, la structure comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de centres de formation à différents niveaux, pour différents métiers, son, lumière, plateau. Il y a même des lycées, en tout cas à Toulouse, il y a un lycée qui forme à la régie plateau, hein, à la scénographie. Mais il y a des centres à Toulouse, en région, et bien sûr à Paris ou même sur le réseau national, qui forment toutes sortes de régisseurs. Alors, c'est sur dossier, c'est plus ou moins compliqué d'accès, c'est plus ou moins long. Il faut avoir plus ou moins de technique, ou en tout cas comment dirais-je, de cursus. Mais ça reste accessible quand même à un maximum de gens à partir du moment où on a la volonté d'y arriver et puis que voilà, on n'est pas trop bête et qu'on se prend en main, quoi. Alors en plus, maintenant, les jeunes, ils sont tous geeks, donc ils ont les moyens au niveau informatique, voilà, ils n'ont pas avant. Et suivant les formations qu'on fait, eh bien, on arrive à différents niveaux de différents échelons de travail avec différents niveaux de salaire. On peut former ici de l'assistant régie, son lumière, ou plateau, à régisseur, voire régisseur général. Voilà. Après, pour les plus, comment dire, ceux qui ont un bagage scolaire un peu plus conséquent, on peut être régisseur général ou directeur technique. Mais ce cheminement-là, il se fait aussi par l'expérience. Moi, dans mon cas, je n'ai pas fait d'études de directeur technique, ni de régie générale, mais j'en ai fait tellement sur le terrain que dans ma pratique, les gens qui m'embauchent me faisaient confiance par rapport à ça. Après, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Les normes ont changé, les entreprises et les collectivités demandent beaucoup de références de diplômes, de trucs comme ça. Donc, il vaut mieux passer
Pas
par
cette
ces
formation.
circuits-là. Et puis, faire des petites formations, genre SIAP ou genre dessin assisté par ordinateur, ou voilà, des petites formations de même quelques mois, même des fois un mois, des fois 15 jours, ou par exemple la conduite des engins, voilà, qui permettent d'avoir une plus-value et d'avoir une chance supplémentaire d'être embauché. Surtout en tant qu'intermittent, voire même, alors par contre, dans les grandes structures, là par contre, il faut des habilitations obligatoires, quoi. Soit on les a, soit on ne les a pas. Soit on peut, dans certains cas, se faire former, se faire payer la formation par la structure, mais ça reste des chemins très personnels, quoi. Voilà.
Il y a la région qui finance aussi pas mal
La
ces
région
formations.
finance beaucoup de formations, l'État aussi. Oui, il y a moyen de se former. Voilà. Après, C'est comme pour tout, c'est une histoire de capacité, de qualité d'écoute et d'empathie, et puis de réseau. Voilà. Donc,
Et si on est motivé dans ce domaine-là, on peut y arriver, quoi,
Oui.
peu importe le parcours.
Ben, pour moi, oui, il n'y a pas de. Alors, peut-être que c'est différent de ce qu'il y avait avant. Avant, c'était, c'est vrai que c'était plus amateur. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Les consoles, les circuits, tous les moyens de diffusion sonore ou visuels, hein, se sont beaucoup, beaucoup perfectionnés, complexifiés. Donc, effectivement, ça demande un certain nombre, ça demande plus de pratique qu'avant, mais c'est aussi dans l'air du temps. C'est aussi une évolution que les jeunes maintenant ils connaissent, avec les téléphones, avec voilà. Avant, on faisait des régies, il y avait des consoles qui prenaient toute la pièce. Et puis, voire deux ou trois, et puis maintenant, avec un ordinateur, voire même son téléphone, on arrive à faire des régies très complexes. Voilà. Hein.
Le métier a évolué.
Ah, le métier a beaucoup évolué. Il y a un domaine aussi où il y a, alors là, c'est quand même assez particulier, mais où on peut aussi trouver sa place, mais c'est des formations qui sont plus réglementées, c'est dans le cinéma et dans la télévision. Alors, cinéma, un peu moins, parce qu'on peut trouver des équipes encore qui sont au niveau amateur et qui cherchent vraiment des gens qui sont des brouillards. Mais par contre, à la télé, voilà, il faut avoir des formations, soit de machinistes, soit d'éclairagistes, soit de, voilà, qui ne sont pas plus compliquées que celles du spectacle vivant. Hein,
Ça se rapproche,
mais qui, voilà.
la régie d'art
Oui,
vivant et la régie de télé,
oui. Ouais.
cinéma, ça se rapproche.
Voilà. Alors après, il y a la régie des shows, etc., télévisés ou même des concerts, etc., qui sont beaucoup plus compliqués. Là, qui demandent un niveau de technicité et puis des connaissances un peu plus compliquées parce qu'il y a de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de références informatiques. J'ai assisté à des montages où j'ai fait des montages pour des équipes comme ça de concerts. Effectivement, le régisseur de la compagnie qui passe, fait faire le montage et la programmation par un autre gars. Et puis lui, il vient simplement pour assurer le show et appuyer son bouton, on va dire. Hein, mais voilà. C'est très codifié, mais c'est leur système, il fonctionne comme ça, quoi.
Quelqu'un qui bosse en régie dans l'art vivant peut se diriger ensuite
Ah
vers la régie d'autres choses
oui,
sans
moi
trop
j'en
de problème.
connais. Oui. Il y a même eu, alors, ici à Grainerie, pendant longtemps, on avait des stagiaires, notamment en regard du volet d'insertion. Des jeunes plus ou moins cassés, des jeunes abîmés par la vie, d'autres qui avaient trouvé ce circuit-là pour se former, ils avaient trouvé un biais. Donc on en a eu jusqu'à 18 en tout, par groupe de 6 pendant 3 ans. Et dans ces groupes-là, ben, il y en a, ils ne s'en sont pas sortis. Pour X raisons, hein, je pourrais raconter là, mais bon, qui sont liés à leur vie personnelle, à leur passé, à leur enfance, etc. Et d'autres qui s'en sont très bien sortis et qui sont maintenant des régisseurs connus et qui travaillent même d'ailleurs à la télé. Un autre qui fait aussi des festivals. Donc oui, ça. Ben, eux, ils sont passés en stage ici, ils sont venus. Ben, nous, on leur a appris ce qu'on a pu. Ils ont regardé un peu comment ça se passait. Puis on les a aiguillés vers des formations qu'ils ont fait, qu'ils ont réussi. Non, moi je crois que il n'y a pas de barrière en tout cas. Ben, il ne faut pas être un analphabète, hein, c'est sûr, mais encore que. Si on est analphabète et qu'on se débrouille, on peut y arriver parce qu'il y a beaucoup de formations qui ne demandent pas de. Bon, il faut savoir lire et écrire minimum le français, hein. En tout cas pour faire des formations. Mais après, il n'y a pas besoin d'un niveau scolaire forcément étendu, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. Bon.
Ça peut être un échappatoire aussi,
Aussi.
ces domaines, ces
Ah
travaux.
ben oui, tout à fait. Et puis c'est enrichissant. On apprend quand même pas mal de choses, hein, pour rencontrer toutes sortes de gens. C'est un condensé de la vie, hein, dans ce domaine, dans ces milieux-là, il y a de tout. Moi, j'ai un peu vu tous les côtés, un peu moins la télé, puis voilà, mais les arts vivants, j'ai toujours trouvé que c'était plus enrichissant. Et j'ai trouvé particulièrement, alors un peu sur le tard de ma carrière, mais quand même, le milieu du cirque est très, très, très captivant, très. Très, très intéressant par les cooptations qu'il y a encore, voilà. Dans d'autres milieux, le théâtre, la musique, c'est beaucoup plus. Est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour peu d'offres? Je ne sais pas trop, mais c'est devenu beaucoup plus renfermé. Le fils d'eux arrive plus facilement que celui qui balaye. Donc, voilà. Tandis que dans le milieu circassien, j'ai trouvé que vraiment c'était intéressant, tant au niveau artistique, hein, que technicien, par le fait que ben, moi quand je suis rentré, les équipes elles tournaient déjà pas mal, et encore maintenant, de moins en moins maintenant, mais elles tournaient pas mal. Du coup, à la fois les régisseurs et à la fois les artistes, ils avaient besoin de se faire remplacer, parce qu'ils travaillaient dans différentes structures. Du coup, ça oblige à se regrouper, c'est-à-dire à faire des remplaçants d'eux, etc. Avoir des binômes, voire des trinômes pour certains. Ben, du coup, ça fait que tout le monde se connaît à peu près, et qu'il n'y a pas trop d'histoire de voilà, et qu'on s'entraide, et que ben, on se refile des plans. Ce qui est plus rare dans le théâtre ou dans la musique, surtout dans la musique.
On va revenir un peu sur l'intermittence. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, voire pas du tout. Qu'est-ce que c'est l'intermittence?
Alors, l'intermittence, pour être intermittent, donc c'est lié aux annexes 8 et 10, c'est-à-dire c'est lié aux annexes de la culture. Il faut être donc. Alors, annexe, je ne sais plus si c'est 8 ou 10, hein, mais il y en a une qui est du spectacle des arts vivants, et l'autre qui est liée au cinéma et à la vidéo, à la télé. Et pour être déclaré intermittent, il faut faire un certain nombre d'heures. Alors, on est inscrit au chômage, donc on est chômeur. Comme un chômeur du régime général, sauf qu'on a une particularité dans ce régime-là, qui est liée aux spécificités du métier, de formation continue, de fait que c'est des spectacles éphémères, etc. Donc ils ont monté un statut qui permet à ces personnes qui travaillent dans ces structures et qui sont déclarées dans ces structures, donc avec un code particulier pour elles, qui leur permet d'avoir un régime particulier intermittence, donc il faut faire là, à l'heure actuelle 507 ou 510 heures, je ne sais plus,
À l'année.
à l'année. Bon, c'est un statut qui évolue, hein, en fonction des politiques, etc. C'est un peu plus avantageux, un peu moins. Là, c'est en train de redécliner, mais ça reste quand même spécifique à ce métier et particulier. Donc l'intermittence, c'est travailler dans les métiers du spectacle, vivant ou visuel. Et être à quelque niveau que ce soit, artiste ou technicien, et être rémunéré par ces structures. Et au bout d'un certain temps, on obtient donc ce régime auprès de l'assurance chômage, et ben, on est rémunéré tous les mois à la fois par le travail qu'on fait, et à la fois donc par les structures, et à la fois par le régime. Voilà. Ce qui permet d'avoir un régime, un niveau de salaire qui permet de vivre à peu près décemment, bon, en fonction des salaires qu'on a eus précédemment, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le calcul des indemnités, il est fait en rapport avec les déclarations qu'on fait, tant au niveau que de leur fréquence. Alors, il y en a, ils font leurs heures en un mois, hein. J'en connais dans les structures, c'est l'effet un peu pervers du système, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui profitent de ça et qui prennent à peu près toujours les mêmes en intermittence, donc les centres dramatiques, des trucs comme ça, ce qui fait que ceux-là, ben, ils ont beaucoup d'heures. Souvent très peu payés, mais ils ont beaucoup d'heures, donc ils ont des petits revenus de chaque côté, mais ça leur permet en complément d'avoir un salaire correct. Et puis d'autres qui ont des revenus bien plus intéressants, notamment ceux qui sont. Il y a deux écoles de formation de régisseurs en France qui sont très très connues, et presque trois d'ailleurs. Et ceux-là, ils rentrent directement dans les grosses compagnies ou dans les. Ils sont déjà intermittents en sortant de l'école, mais c'est des formations de 3 ans. C'est un niveau bac plus. Et voilà, ceux-là, c'est un peu la voie royale des régisseurs pour les grosses compagnies d'opéra, un peu théâtre. Voilà. Et bon, eux, ils sont dans les circuits nationaux de tous les théâtres nationaux qu'il y a en France, quoi.
Mais tous les régisseurs et régisseuses ne sont pas sous le régime de l'intermittence. Certaines personnes
Non.
sont sous
Non.
contrat
Ouais, il y en a qui sont auto-entrepreneurs, il y en
aussi.
a qui sont embauchés, comme moi par exemple. Alors ceux qui sont intermittents, ben, eux, ils travaillent pour plusieurs personnes, voire deux fois pour une seule, hein, mais de façon intermittente. Alors ça, c'est de moins en moins possible parce que dans le régime, ils ont demandé à ce que justement les déclarations soient faites par plusieurs organismes et pas qu'un seul, parce que sinon c'est un peu triché. Mais aussi, on peut être technicien ou artiste. En dehors du régime d'intermittence, hein, bien entendu.
Comment est-ce que tu définirais ton travail? Qu'est-ce que serait une journée type de ton travail?
Ouf. Alors là, une journée type, c'est pas vraiment une journée type, mais en fait, il y a un point d'orgue, c'est de répondre aux demandes donc, des artistes, hein, et puis aux exigences à la fois de la direction, des équipes de la grainerie, qu'elle soit locataire, adhérente ou voilà. Et puis respect des règles de sécurité et sanitaire qu'il y a dans les ERP, puisque nous sommes un établissement recevant du public, et qu'en France, il y a des lois, que c'est régi de façon très réglementée. Voilà, surtout que ce bâtiment donc, a la particularité d'être sur une commune qui s'appelle Balma. Ce bâtiment est également la propriété de Toulouse Métropole. Nous, on fait partie de Balma, mais c'est Toulouse Métropole qui règle les problèmes administratifs et réglementaires. Voilà, donc on a ces deux collectivités qui sont, auxquelles il faut faire référence en termes de sécurité, le respect des règles des ERP. Donc ça prend un peu de temps. Et puis, bien après, il y a l'accueil donc des compagnies qui soit en résidence, soit en production, donc en programmation. Voilà, dans différents studios. Voilà. Et puis après, ben, c'est pouvoir répondre aussi aux sollicitations des uns et des autres. Une panne par-ci, un blessé par-là, un truc qui manque là. Améliorer le parc technique, ou en tout cas le changer, puisque comme les règles évoluent, on est obligé de passer en LED. Donc voilà, il faut faire des appels d'offres, regarder le matériel. La journée type, ben, elle commence. Alors, c'est compliqué. Si on repart dans le passé, j'étais longtemps un peu seul, donc je n'ai pas trop parlé de ce moment-là, puisque c'est passé. Mais là, on avait décidé de faire. Parce que maintenant, on est deux, il y a un technicien qui est embauché en permanence. Donc, on avait décidé de faire lui 9h, 17h, puis moi 10h, 18h. C'est un peu compliqué. J'arrive un peu. Comme j'ai beaucoup d'heures supplémentaires, maintenant, j'essaye d'arriver plutôt vers 10h, 11h. Mais le travail me rattrape et du coup, je pars plus tard, quoi, parce que. Une fois qu'on a réglé les problèmes voilà, qui arrivent un peu tous les jours, ben après il y a aussi une partie administrative qu'il faut régler, donc ça prend du temps au bureau. En général, c'est moi qui ferme en dernier, je regarde si les chauffages sont coupés en hiver, si la lumière est bien éteinte.
Beaucoup de polyvalence.
Alors à la grainerie, il faut beaucoup de polyvalence. Je dis à la grainerie, ça arrive dans d'autres structures aussi, mais ici particulièrement, oui. Deux techniciens, c'est relativement peu, même si on est un peu aidé maintenant par un technicien de surface, comme on l'appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le ménage, qui est embauché depuis peu par nous, mais à mi-temps. Du coup, il nous file des coups de main, mais bon, voilà, il faut quand même bricoler, il faut mettre la main à la pâte, il faut savoir faire un peu de plomberie, de l'électricité, de la peinture, du bois.
Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail?
J'aime particulièrement le rapport avec les gens, la collectivité, que je trouve intéressante. La grainerie, c'est aussi bon, la grainerie en tant que structure, mais il y a aussi des compagnies, des associations qui sont associées à la grainerie, qui sont soit des lieux de production ou de diffusion, soit des compagnies, soit des structures qui sont dans le milieu des arts du cirque, donc en direction comment, des publics. De publics particuliers, soit de très jeunes enfants, soit d'handicapés, etc. Tout ça, ça fait un groupe de gens bah, qui se connaît mine de rien depuis très longtemps, hein, moins de plus d'une dizaine d'années, qui est plutôt sympathique et que voilà, on a plaisir à rencontrer. Certains viennent tous les jours, d'autres non. Bah, les artistes aussi, c'est pareil. Comme moi, je suis un peu ancien dans l'histoire, on me connaît à peu près. Sans arrêt en train de me chercher, il paraît dans le bâtiment. Donc,
Oui.
ça donne une idée de la masse d'informations que je peux détenir. Mais bah, des fois, on me cherche pour une autorisation, hein, pour dire oui, je peux garer ma voiture là, mais parce qu'on a un parking. Donc, il faut gérer l'utilisation de ce parking, notamment quand on y implante des chapiteaux.
Qui est
Et
aussi la place de l'itinérance, du
voilà,
coup.
qui s'appelle la place de l'itinérance et qui est. Donc, il faut gérer les trucs. Donc, on me cherche aussi parfois pour ça. Et puis, parce qu'il y a une panne ici, ou parce qu'on a besoin d'accrocher un agrès dans un studio, des choses comme ça. Donc, ouais. Alors, les deux me cherchent un peu moins, mais on me cherche toujours un peu, ouais, par habitude aussi.
Est-ce que tu échanges avec d'autres personnes qui font le même métier que toi, d'autres structures?
Oui.
Qu'est-ce que ça
Oui.
t'apporte?
Ben, en fait, on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, ça c'est sûr. Après, moi, il nous correspond, comment dirais-je? Je suis censé faire une veille juridique, mais que je ne fais pas vraiment. Donc, du coup, après, quand il y a des règlements qui changent et qu'on a des problèmes, voilà. Alors, il y a une association de régisseurs généraux et directeurs techniques qui s'appelle Areditech en France, dont je fais partie. Ben, après, dans le. En ville, enfin à Toulouse en tout cas, il y a 3-4 régisseurs, alors qu'ils sont soit dans des structures municipales, soit dans des structures métropolitaines, mais avec qui on est confronté au même problème. Donc ben, quand il y a un souci ou un machin, on s'appelle, voilà. On échange beaucoup de matériel aussi. Et du coup, ben, ça permet, quand on va chercher le matériel ou qu'il vient ici, etc., ben, d'échanger sur les problèmes qu'on a les uns et les autres. Et comment on les résout et comment on peut les résoudre.
Est-ce que tu as déjà eu des coups durs
Ici,
dans ta carrière?
ah, dans ma carrière, j'ai eu des trous, oui. J'ai eu des trous, j'ai eu des accidents, j'ai eu des problèmes de santé. Oui, j'ai eu des problèmes de santé.
Et comment on se relève et comment est-ce qu'on reprend le travail?
Ben, moi, je suis quand même de nature, je tombe, je me soigne et je me relève. Voilà, je suis pas trop à m'apitoyer sur mon truc. Quand je suis handicapé complètement, ben, je m'allonge dans mon lit, j'attends que ça passe. Enfin, je me soigne aussi, j'attends que ça passe. J'ai la chance d'être plutôt bien entouré. Donc, en général, j'arrive à me rétablir assez vite. J'ai tendance à forcer ma nature aussi, mais ça vient de ma mère. Voilà, ici, je suis venu travailler et on se trouvait que j'étais dans un état cadavérique. Mais moi, je ne sentais pas. C'est un peu fatigué, mais pas non plus en incapacité de travailler, en tout cas pas un danger pour les autres. Oui, des coups durs, ben oui, je pense que dans une vie, voilà, on a tous plus ou moins. J'ai été blessé, ben, comme je disais, quand j'étais patron associé dans cette structure de messagerie, là, cette boîte de messagerie, ben, l'accident, ça m'a bien séché 2, 3 mois. Après, effectivement, il faut se relever, il faut savoir ce qu'on va faire.
Au vu de ton job, il y a quand même pas mal de charges mentales, tu gères quand même
Oui,
et tu essaies de résoudre les problèmes des uns des unes des autres, de plein de compagnies, d'artistes, de la structure.
mais en
Est-ce que
même
c'est pas
temps,
difficile d'absorber tout ça?
oh ben des fois c'est pesant, oui. Des fois je me dis, je me réveille la nuit, je me dis, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, il faut que tu fasses ça. Voilà. Finalement, comment dirais-je, c'est un peu comme une rivière, hein, il y a un courant, là, tu passes. Dans la structure, on s'entraide quand même pas mal au niveau de la codirection. Hein, l'administratrice fait beaucoup à ce niveau-là. Elle restructure beaucoup les choses. La direction ne recule pas devant ses responsabilités, donc ça reste relativement, comment dirais-je, complémentaire. Hein. La charge mentale est importante, oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'elle est pesante? Je ne sais pas, on va dire que le samedi, je dors un peu plus longtemps que les autres jours de la semaine. Mais, et d'abord, comme si j'ai un téléphone qui est relié à l'alarme du bâtiment, du coup, comme la direction d'ailleurs, ben effectivement, parfois on est aussi dérangé les week-ends et les jours fériés. On va dire que j'ai pris l'habitude, donc ça me pèse moins qu'au début. Des fois, je râle parce qu'ils font chier, mais en même temps, c'est jamais des appels pour rien. Souvent, les gens, ils sont dans la panade, il faut leur répondre.
Ça fait partie du job, quoi.
Alors, il y en a qui disent que ben, t'as qu'à pas répondre et puis tu t'en occupes pas, mais moi, je peux pas. Donc, voilà. Non, je peux pas. En général, les gens, quand ils appellent, ben, c'est que soit ils sont à la porte et qu'ils ne savent pas comment rentrer, soit voilà, soit il y a un souci, soit il y a un accident. Alors, les week-ends, c'est rare, hein. Mais voilà, c'est pas, hein, c'est une structure ici qui est faite pour les artistes et pour justement le milieu du cirque. Il a en fait beaucoup de matériel, beaucoup de personnel, beaucoup de contraintes. Donc, du coup, ben, ça fait que l'occupation du terrain doit être, à mon avis, un peu permanente et puis complète. Voilà, hein, c'est un lieu de fabrique. Hein, donc, qui dit fabrique dit que ben, il y a forcément des impondérables, des inconnus. Voilà. À mon avis, il faut y répondre. Je ne suis pas obligé d'y répondre, mais ma nature fait que j'y réponds.
Si on devait retracer ton parcours et ta vie pro, quel regard tu porterais sur ton évolution, par exemple?
Ben en fait, chaque fois que j'ai été dans la galère, j'ai eu de la chance. Des fois, il a fallu patienter, mais j'ai eu de la chance. Après, j'ai pas eu, comment dirais-je, une évolution technique extraordinaire. Ici, j'ai appris beaucoup de choses en termes de direction technique, puisque je savais rien. Ni réglementairement, ni au niveau des accroches, ni au niveau des, voilà, Bon, j'avais des notions quand même de résistance, etc., de par les compagnies que je faisais, que j'avais suivies, mais dans un lieu comme ça, un ERP avec des réglementations, avec, ben, j'ai un peu appris sur le tas, et ma foi, ça m'a pas mal enrichi, au regard des formations que j'ai pu faire, ou je sais pas, de mon caractère, de mes défauts, de mes qualités, je m'en sors pas mal. Suis pas mécontent, pour l'instant.
Avec le recul, tu dirais quoi à toi, enfant ou ado?
Ou ado, j'étais très compliqué, très timide, très complexé. Je pense que ça vient de. Alors, je suis l'aîné d'une, comment dire, d'un couple un peu âgé déjà. Bon, j'ai quand même trois frères et sœurs derrière, hein. Mais un peu âgé, qui était un peu, comment dirais-je, catholique, un peu néophyte aussi dans l'éducation des enfants. Et qui a subi un traumatisme avec donc ce départ d'Algérie, la guerre d'Algérie, que moi j'ai subi aussi, évidemment. Voilà, quand je suis arrivé en France, j'ai perdu tout de suite plusieurs niveaux de vue, donc je suis devenu myope. Mais mon adolescence a été compliquée, oui. J'ai suivi des études à peu près normales, on va dire. Moi, jusqu'au bac, c'était assez. Voilà. Et puis après, c'est parti un peu à volo. Enfin, à volo. Oui,
Et tu voudrais
j'ai
te
voulu
dire quoi?
changer. Et donc, si je devais donner un conseil, c'est d'oser beaucoup plus. Faut oser. Voilà, souvent, je suis resté dans ma coquille, où j'attendais qu'on m'appelle ou qu'on me donne un coup de bâton pour réagir. Et ça, c'est pas bon.
Tu dirais la même chose à la jeune génération aujourd'hui? Tu voudrais leur dire autre chose en plus?
Ben, moi, je leur dirais déjà de ne pas trop écouter les sirènes, notamment celles des réseaux sociaux, s'ils peuvent, parce que voilà. Et puis, bah oui, d'essayer d'être eux-mêmes et d'oser. Le milieu du cirque est bien pour ça, parce qu'en fait, en tout cas, les actos, ils forcent les artistes à exprimer ce qu'ils sont et à faire une introspection sur eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait des gens qui sont à la fois autonomes, volontaires et intéressant, beaucoup plus que les moutons qui suivent l'air du temps, ou les, comment on appelle ça là, les influenceurs. Je sais pas si c'est un drame, il y en a qui sont bien, mais il y en a quand même beaucoup qui sont un peu dommageables.
Quelle est ta vision de la culture et de la société aujourd'hui et comment tu as vu ça évoluer avec ton parcours?
Alors la culture, elle s'est beaucoup professionnalisée, ça c'est clair. Moi j'ai connu, il y en a encore, hein, mais j'ai connu beaucoup de secteurs amateurs où on faisait les régies avec des bouts de ficelle, enfin les bouts de ficelle avec des, oui, des assemblages de savoir, de technique, mais qui restaient quand même rudimentaires et puis liés à des gens qui avaient d'autres métiers, soit électricien, soit chauffagiste, soit chaudronnier, soit, je sais pas, menuisier, voilà. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Au niveau de technologie informatique, ça, c'est sûr que ça s'est énormément développé. Donc, vous voyez, ça devient vraiment des métiers spécifiques, quoi, de niche, hein. À certains niveaux, on peut toujours faire des spectacles en amateur et bricoler, ça n'y a pas de problème, y compris faire une carrière correcte ou compétente, notamment en musique ou machin. Il faut bien démarrer quelque part, hein. Et pas forcément avec des diplômes. Mais la profession elle-même, elle, c'est beaucoup plus renfermée, beaucoup plus spécialisée. Voilà. Et réglementée. Parce que, donc, en ERP, il y a plusieurs. Bon, on peut faire l'historique des ERP, mais il y a plusieurs catégories et plusieurs types. Et la culture, notamment les salles de spectacle, d'audition, etc., sont parmi les salles les plus réglementées, parce que, soi-disant, les plus dangereuses. Qui vient à l'origine qu'il y avait beaucoup comment dirais-je, de manipulation avec le feu, etc., des torches, des trucs comme ça, des bougies, des trucs. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes dans les salles de spectacle, mais quand il y en a eu, ça fait mal. Donc, du coup, on a une réglementation très stricte, notamment au niveau incendie. Donc, du coup, qui demande des spécificités techniques particulières, qu'il n'y avait pas avant.
Juste un mot de la fin, tu dis ce que tu veux, un message, ce que tu as envie de dire.
Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je pense que le. Bah, c'est un peu valable dans tous les métiers, dans tous les trucs, mais Être soi-même et s'écouter, je pense que voilà, c'est assez important. Et l'empathie. J'essaye de rendre service quand je peux. Des fois c'est chiant, des fois c'est contraignant, des fois ça pose des problèmes, mais voilà, c'est ma façon d'être. Merci et à bientôt, cordialement et bisous.
Merci Michel.
Vous venez d'écouter Graines de Vie, un podcast proposé par l'association Ivasan Studio, à la rédaction et à la réalisation Guillaume P. Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivasanstudio.com.